France Culture.
Les nuits de France Culture.
En 1991, peu après la nomination de Jean-Marie Villégier à la direction du Théâtre national de Strasbourg, Jean Dève consacrait une série de 4 émissions du Pays d'ici au TNS. Dans la deuxième de ces émissions, en compagnie de son nouveau directeur, avec à ses côtés Pierre Lefebvre, qui avait dirigé durant 15 ans l'école qu'abritait le théâtre, on y remontait le cours de l'histoire du TNS depuis les années 50, en écoutant, interrogé par Jean Dève, les 3 principaux prédécesseurs de Jean-Marie Villégier à la tête du TNS, Hubert Gignoux, Jean-Pierre Vincent et Jacques Lassalle. À travers leurs confraternels propos auxquels réagissait Jean-Marie Villégier, on pourra percevoir, dans la très intéressante émission qui va suivre, les nuances, pour ne pas dire les notables divergences, qui distinguaient la manière dont chacun avait abordé son mandat et l'idée que chacun d'eux avait de ce que doit être un théâtre national, tout particulièrement en Alsace. Comme on pourra l'entendre, à ces divergences de vues, Jean-Marie Villégier, à 1 an du traité fondateur de l'Union européenne, abattait opportunément le joker Europe pour définir l'orientation qu'il entendait donner à la mission qui lui avait été confiée. Le Pays d'ici, théâtre à Strasbourg, deuxième des 4 émissions, Histoire du TNS, diffusée le 29 mai 1991 sur France Culture. Des problèmes de liaison technique sont à l'origine des parasites malheureusement présents sur la bande.
En direct de la salle de musique de l'école du TNS avec Pierre Lefebvre, proche collaborateur de Michel Saint-Denis qui a dirigé le TNS de 52 à 57 et de Jean-Marie Villégier qui a pris récemment ses fonctions de directeur. Alors première question, Pierre Lefebvre, où en était le TNS lorsque vous arrivez ?
Alors, je suis arrivé, l'école du TNS avait déjà carburé au théâtre de Colmar. Et le Centre dramatique de l'Est était déjà en fonction et faisait des tournées depuis quelques mois. Et je suis arrivé en 1955, en janvier, pour venir aider Michel Saint-Denis à créer le curriculum d'études, comme j'avais travaillé avec lui en Angleterre pendant de nombreuses années. Je connaissais ses méthodes et il m'avait demandé de venir comme professeur. Je suis arrivé en 1955, je suis resté jusqu'en 1970. Parce qu'ils les ont mis malades, Gignoux a fait la relève, et Gignoux voulait supprimer l'école parce qu'il n'y connaissait rien, enfin, en gros. Et Saint-Denis lui a dit, mais garde donc Pierre, et puis il va diriger l'école, et puis tu apprendras ce que c'est que de... Et alors nous avons collaboré, Gignoux et moi, mais c'était moi qui dirigeais l'école et qui en était un peu l'âme pendant 15 ans.
Alors quelles étaient les instructions d'alors? Enfin, quelle était la mission du TNS?
Ben, la mission du TNS, vous voulez dire de l'ensemble du TNS, la grande mission, c'était d'apporter du théâtre en français, en plus, à cause de le problème de francophonie, d'amener le plus possible de théâtre dans les petites villes, non seulement dans les sous-préfectures, mais même dans les chefs-lieux de canton. Enfin, on a fait un travail énorme de représentation en allant vers le public et de créer un public grâce à cet effort. Ça a été une des pièces maîtresses de cette époque.
Monsieur Jean-Marie Villégier vient d'arriver, un peu en retard et en direct.
Et je vous demande bien pardon.
Je posais la question à votre ami. Quelle était la mission du TNS et quelle est la vôtre aujourd'hui ? Jean-Marie Villigier. Quelle est la mission du TNS et quels en seraient au fond les moyens?
Bon, la mission du TNS, elle ne se résume pas en un mot, mais je dirais quand même que sa première mission, selon moi, est d'être théâtre national, c'est-à-dire foyer de création, avec un rayonnement sur la ville, sur la région, mais qui s'étendent aussi au-delà de la ville et de la région, comme il est normal pour un théâtre qui porte ce titre et qui est seul en province à porter ce titre. Sa mission est aussi évidemment une mission d'accueil, puisque nous nous devons d'offrir au public strasbourgeois ce qui se fait de mieux dans le théâtre français et dans le théâtre étranger d'aujourd'hui. Sa mission encore est une mission de formation et, comme j'ai commencé à le dire un peu hier, je crois que pour ce théâtre, la présence de l'école en ses murs est une chance, de même que pour l'école, la cohabitation avec le théâtre est aussi une chance.
Alors je vous propose de découvrir un peu l'histoire du TNS et de son école, entre autres avec l'une des grandes figures, Hubert Gignot.
Alors, je tombe d'abord sur un instrument tout à fait extraordinaire, un bâtiment qui était non pas comme c'était à Rennes où la troupe existait, puis on lui a trouvé quelque chose qu'on a fini par transformer en bâtiment de répétition et d'administration. J'arrive à Strasbourg, je trouve le bâtiment existait avant, si vous voulez, le théâtre. Bon, avant la troupe, avant les gens qui allaient l'habiter. Et il y avait donc une salle de spectacle qui reste une des plus belles de France, je trouve acoustiquement une des plus extraordinaires. Il y avait des salles de répétition, des bureaux, enfin tout ce qui, des ateliers, bien sûr, tout ce qui fait vivre, tout ce qui permet à une entreprise théâtrale de vivre dans toutes ses parties artistiques et techniques. Alors ça, déjà, c'est très fort. Et puis j'ai assez vite compris, ma découverte, ça a été au fond l'école. Je n'avais jamais fait de pédagogie théâtrale. J'avais été simplement chef d'une troupe professionnelle à Rennes. Alors, à Strasbourg, je trouvais les éléments d'une troupe professionnelle, mais cette école que Michel Saint-Denis avait fondée, je n'y connaissais rien. Heureusement, Michel m'a laissé son principal collaborateur, qui s'appelait Pierre Lefebvre, qui est resté avec moi presque pendant tous les 14 ans que j'ai passé là-bas, et qui a pris la direction de l'école. Et pendant un an ou deux, je l'ai regardé faire.
Jean-Pierre Vincent, vous avez dirigé le TNS et l'école du TNS de 1974 à 1983. Alors tout d'abord, comment avez-vous trouvé, enfin, quel était l'état du théâtre au moment où vous êtes arrivé à Strasbourg ?
Le théâtre, malgré une succession trop rapide de directeurs juste avant moi, il y avait Jacques Fournier, André-Louis Perinetti qui n'était pas resté très longtemps, vivait encore grandement sur l'élan qu'avait donné Hubert Gignot. Mais un peu secoué par le début des années 70, par le post-68. Et puis il y avait un problème qui était le premier problème que j'ai rencontré, qui était que ce théâtre n'étant pas à Paris, ce théâtre national n'étant pas à Paris, était en retard sur tous les autres, question convention collective. Donc, il y a eu un conflit que, je dois dire, j'ai quand même plus ou moins déclenché moi-même pour assainir la situation concernant le statut du personnel de la maison, ses avantages à long terme, etc. Artistiquement, à ce moment-là, le théâtre était quand même relativement troublé par une trop rapide succession de directeurs.
Alors vous êtes resté longtemps, un peu moins de 10 ans, donc vous avez pu faire un certain travail, très vite.
Alors très vite, la première chose a été de reconstituer une troupe permanente. C'était un coup d'audace parce que, à l'époque, créer des emplois d'artistes permanents dans un théâtre était formellement interdit. par le ministère. Bon, c'est un théâtre qui dépend directement et du ministère de la Culture et du ministère du Budget, en tant que théâtre national, et c'était interdit. Alors, j'ai examiné le budget de création artistique du TNS, et puis j'en ai pris une partie, en créant des emplois, 12 emplois artistiques permanents, d'un seul coup, en me disant que le fait d'avoir des artistes permanents, évidemment, créerait des économies, et que de toute façon, je devais rester dans l'enveloppe budgétaire générale. Et puis je suis allé au ministère, et puis j'ai dit... je viens de créer 12 emplois artistiques permanents, virez-moi. Et personne ne m'a viré. Donc l'année d'après, j'en ai rajouté 3. Et on est resté pendant 8 ans après avec 15 artistes permanents au TNS.
Alors essayons d'ouvrir une grande parenthèse. Quels seraient les avantages et désavantages d'une troupe permanente? Est-ce que en maintenant une troupe permanente, est-ce que les textes que vous choisissez ne subissent pas certaines influences?
C'est clair, mais c'est un choix. On ne peut pas tout faire à la fois. C'est vrai qu'un théâtre peut rester écuménique et aller fouiller dans tous les coins du répertoire, appeler des acteurs selon les projets. C'est ce qui se fait la plupart du temps. Parce qu'il faut bien dire que depuis que la troupe du TNS s'est abolie, en 83, il n'y a plus de troupe en dehors de la Comédie-Française. C'est certain que nous avions l'avantage de former un ensemble cohérent, parce que ça n'était pas seulement des acteurs, c'était des metteurs en scène et des auteurs. C'était un groupe artistique complet, qui avait le gros avantage de fonctionner comme un bulldozer, même s'il y avait des tendances et des tensions dans le groupe, comme c'est normal entre artistes. Il y avait une émulation dans le groupe, entre des sous-groupes du groupe, etc. Il y avait quelque chose comme une force commune, un rassemblement sur des idées de base qui nous ont permis de creuser très profond, de creuser très radicalement les questions artistiques de ce moment-là. Et même, je dirais, de les créer, de les inventer, ces questions. Évidemment, nous étions, disons, un groupe de génération cohérente. À ce moment-là, la plupart d'entre nous avaient entre 30 et 40 ans. Et donc, on ne pouvait pas monter, par exemple, des pièces où il y a beaucoup de jeunes gens. On ne pouvait pas monter... ça ne nous intéressait d'ailleurs pas de faire du théâtre de répertoire, comme on dit, mais de créer des entreprises artistiques, hardies, nouvelles, du jamais vu. Et on a fait ça pendant 9 ans. Oui.
Lassalle, tout d'abord, je vous remercie de nous recevoir dans votre bureau, ici à Paris, à la Comédie-Française. Ce qui nous change et ce qui vous change peut-être du TNS dont nous allons parler. Vous entrez sur la scène de ce Théâtre National de Strasbourg en 1983. Alors, quel est l'état des lieux, si je puis dire, lorsque vous entrez en fonction?
Je succède à Jean-Pierre Vincent, qui était là depuis 9 ans, je crois, qui était arrivé lui-même en 1974, avec, à la couleur du temps, je ne crois pas dépasser ou défigurer sa pensée, qui était arrivé à Strasbourg avec l'idée d'abord d'y trouver un toit pour un collectif artistique qui était le Théâtre de l'Espérance. Un toit, c'est-à-dire une idée assez insolente et jubilante à la fois de squatterisation et de subversion de l'institution. Le collectif artistique, et c'était tout à fait significatif et en même temps nouveau à l'époque, se composait non seulement d'une troupe, d'une 8 ou 9 acteurs, si je me souviens bien, mais d'un certain nombre de dramaturges, 4 ou 5, et de quelques collaborateurs artistiques, metteurs en scène et techniciens. C'était l'époque encore où on parlait de, au théâtre, de la philosophie, sinon la politique, ou les deux ensemble au pouvoir. D'où l'importance de cette présence de partenaires dramaturgiques, de metteurs en sens, sinon de contrôleurs du sens. Et ce collectif artistique, je crois, s'installait au cœur de la maison et puis mettait un peu en veilleuse l'institution elle-même. Et
la grande différence entre Vincent et Lassalle, par exemple, c'est que Vincent était plutôt sensible à l'originalité culturelle de Strasbourg et historique. Lassalle, pas du tout. Lassalle a fait un travail qu'il aurait pu faire ailleurs. C'est pas du tout une critique de ma part, hein. C'est comme ça. Donc Lassalle a présenté des classiques, par exemple, des Molières ou des choses comme ça, qu'il aurait pu présenter à Marseille, à Lille ou à Toulouse. C'était en général bien, même très bien, mais ça ne correspondait pas à ce que, je crois, les gens d'ici, sans se l'avouer, sans se le dire, attendent. Et en particulier, bon, par exemple, il y avait une espèce d'attention comme ça de Vincent à une certaine culture allemande que Lassalle n'avait pas du tout et qui a beaucoup compté, je crois, pour l'implantation de Vincent ici. Bon, Vincent, il avait une origine brechtienne, en gros, hein. Et Brecht, en dehors de tout ce qu'on peut dire de lui sur le plan théâtre politique, etc., Brecht est un swab. Donc quelqu'un qui vient de pas loin d'ici, il y a une espèce de sensibilité comme ça, historique, qui est très proche de ce que les gens attendent, je crois, ici. Encore une fois, sans se l'avouer. Et me semble-t-il, c'est ça qui a fait que Vincent a réussi à s'implanter.
Malraux voulait une maison de la culture. Hubert Gignoux voulait un théâtre exclusif et non pluridisciplinaire. On était arrivé à ce Théâtre National de Strasbourg, qui est singulier, qui est sans équivalence dans le dispositif théâtral français, et qui est le point de départ d'un malentendu qui n'est pas terminé à ma connaissance. Théâtre National, doté d'une école nationale, l'autre grande école du théâtre français, est subventionné par le seul État. Mais Théâtre National de Strasbourg, inscrit dans une réalité géopolitique importante aujourd'hui particulièrement, carrefour de l'Europe, et tout naturellement sollicité par la collectivité locale, par les pouvoirs régionaux, et comme théâtre de l'Alsace, théâtre rhénan. L'État paye et la ville et la région commande. C'est tout de même un petit peu le fond du malentendu chez un certain nombre de spectateurs, chez un certain nombre d'élus, dans la presse aussi. C'est ce malentendu que j'ai affronté de plein fouet, sans savoir à quel point il était réel et tenace. Je m'empresse de dire que Jean-Pierre Vincent, après les deux ou trois premières années, avait tout à fait compris que l'institution ne pouvait pas à ce point se laisser ignorer. Et que dès les années 77-78, la reconsidération de l'institution au plan économique, au plan structurel, au plan artistique aussi, le répertoire, les pratiques théâtrales, ne pouvait pas ne pas être prise en considération.
Quelles sont vos réactions à ces propos parfois cinglants de vos prédécesseurs ?
Oh, j'en ai mille qui essaieront de ne pas être cinglantes, parce que je ne crois pas que je sois en position en ce moment de l'être. Je serais cinglant quand j'aurai accompli ici une œuvre comparable à celle de Jean-Pierre Vincent, de Gignoux ou de Lassalle. Je n'ai pas le droit d'être cinglant pour l'instant. Ceci dit, il pourrait quand même m'arriver de l'être malgré moi, sait-on jamais. Ma réaction d'abord, ce serait, puisque la question qui leur a été posée à tous a été de savoir dans quel état ils trouvaient le théâtre, eh bien je répondrai dans quel état, à mon tour, je le trouve. Et d'abord, je dirais que je trouve des lieux menacés. Menacés, ça veut dire que le premier dossier auquel je me suis trouvé confronté en arrivant, c'est le dossier des travaux à entreprendre dans ce théâtre. Il était fortement question, de partir du théâtre lui-même, scène et salle, pour les remodeler complètement, je dirais les casser, et pour créer à leur place un espace dont j'imagine, étant donné ce qu'est l'architecture théâtrale d'aujourd'hui et ce que sont les murs qui forment une enveloppe étroite, qu'il ne pouvait être rien d'autre qu'une banale salle gradinée, peu modulable, et bon, où on aurait eu ce slogan à faire valoir, tout le monde est de face. Tout le monde voit bien. J'ai assez de pratique déjà de telles salles pour savoir que cet argument pseudo-égalitaire, tout le monde voit bien, est un argument spécieux. Mais par ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si de tels projets étaient faits dans ce théâtre, c'est-à-dire si conscience n'était pas prise de ce que ce théâtre, tel qu'il est, tel qu'il a été conçu par Michel Saint-Denis et par Pierre Sonrel, est un élément de notre histoire théâtrale et s'il est un élément absolument singulier de cette histoire. Je pense que cette salle, je parle du bâtiment, cette salle, au point où nous en sommes, est mal aimée et qu'elle a besoin d'être aimée, c'est-à-dire d'être comprise dans sa cohérence. Je pense que... Et je suis très fier et très heureux que Pierre Lefèvre soit à nos côtés ce soir, parce qu'il est précisément l'un des rares avec qui je veux parler longtemps de cette salle et de l'esprit dans lequel elle a été conçue, de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle pense du théâtre, car une salle pareille, ça pense quelque chose du théâtre, ça apporte avec soi une idée du théâtre. C'est rare aujourd'hui les salles qui apportent, des salles relativement récentes comme celle du TNS, qui apportent avec elles une idée du théâtre. Cette idée initiale, elle a été brouillée comme il est normal par des repeints successifs qui font qu'on n'en comprend plus le sens. Ce sens était lié d'ailleurs à la présence simultanée dans ces mêmes murs et d'une école et d'un théâtre. Il y a là un bâtiment qui parle et qu'il faut écouter. Pour l'écouter, il faut l'aimer. Pour l'aimer, peut-être qu'il faut lui refaire un peu une beauté en respectant ce qu'il est. Et aussi qu'il faut, dans la mesure où les besoins se sont accrus, profiter de quelques espaces que nous pouvons encore gagner, tel l'appartement de fonction de l'ex-directeur du conservatoire que la municipalité veut bien concéder à l'État qui est propriétaire des murs, tel aussi ces espaces sur l'avenue de la Marseillaise qui pourraient peut-être être mieux utilisés pour accueillir le public plus dignement, pour lui offrir une librairie des arts du spectacle qui soit la librairie des arts du spectacle de la ville de Strasbourg et qui soit ouverte tard le soir, des choses de ce type, et aussi, sans doute, puisque nous en avons l'espace, et c'est important, creuser sous l'entrée principale, et sans l'entrée principale, je veux dire celle du TNS, pas l'entrée de la Place de la République, une nouvelle salle de 300 places qui, je crois, serait plus viable que ne l'est l'actuelle salle Hubert Gignoux, dont il ne faut pas oublier qu'à l'origine, elle était conçue comme local de répétition. Je parlais de couches successives. Oui, il y a bien des couches successives, et c'est la difficulté qu'il y a à arriver en 1991 dans un théâtre qui a été fondé en 1955 et qui a vécu, pendant toutes ces années, beaucoup de périodes glorieuses, mais quelque peu contradictoires. Alors, oui, je dirais pour l'instant, je suis en train d'examiner ces couches, tel un peu un restaurateur de tableau qui essaie de voir quelle est la bonne couche Et peut-être qu'il n'y a pas, et peut-être qu'il n'y a pas une bonne couche, peut-être qu'il y a au fond des couches qui s'en mêlent et qui se paralysent mutuellement. Donc mon travail en ce moment est d'y voir clair, et je me donne un peu de temps pour y voir clair, pour comprendre ce qui se passe un peu partout. Car il faut bien vous dire que dans ce dessin brouillé, eh bien, je ne suis pas seul à m'en mêler les pinceaux. Il y a beaucoup de gens qui, à travers ces repeints successifs dans la maison, ont perdu leur visage, ne savent plus exactement qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Il faut qu'on s'arrange ensemble pour savoir pourquoi chacun est là, c'est-à-dire que le projet soit fort. Je crois que c'est la seule chose qui pourra nous mettre à l'aise tous ensemble.
Alors je vous propose d'écouter d'autres critiques de Jacques Lassalle.
Je venais d'une pratique longtemps marginale, longtemps transversale, avec de très faibles moyens, sans toit permanent, sans structure permanente, sans troupe. Je venais de passer comme ça, 16 ans à Vitry-sur-Seine, avec une convention passée avec la ville, pour occuper, je crois me souvenir, 8 semaines par an, le théâtre municipal, et le reste du temps pour légitimer le mieux possible cet ancrage à Vitry par des sorties, par une activité qui était progressivement celle d'un freelance, mais qui ne le savait pas.
Il faut peut-être préciser aussi pour les auditeurs que Vitry est le contraire de la Comédie-Française, le contraire du TNS. J'y ai vu par exemple votre Léon Séléna qui était admirable, mais dans une salle extrêmement fragile.
C'est vrai, dure école. Dure école, mais école fondatrice, école où je vivais à la fois mon soupçon pour le théâtre, cette rage que j'ai, qui vient de l'enfance probablement, de légitimer l'artiste par le citoyen, le théâtral par le civique, enfin. C'est peu à peu que le théâtre m'a rejoint dans cette activité d'abord de quartier, d'ouverture, d'initiation au théâtre, plus comme école de spectateurs que comme formation de l'acteur, et que tout naturellement, les années passant, le groupe a voulu montrer ce qu'il réalisait, puis insensiblement, je me suis retrouvé pris dans une espèce de postérité de Villard, côté répertoire et côté public, peut-être de Brecht, côté de l'analyse du texte, peut-être un peu, c'était dans l'air du temps, mais je freinais de toutes mes forces, Artaud et Grotowski, côté mise en brèche de la culture et de la libération des corps. Bref, j'ai traversé tout ça sur le mode mineur et encore une fois tout à fait confidentiel, qui était celui du studio théâtre de Vitry. C'est à cet homme-là qu'on a proposé le TNS. Alors moi, c'était moins l'insolence ou le sentiment intime d'une bonne plaisanterie qui m'habitait que l'intimidation et retour du citoyen, le poids des responsabilités, enfin. Donc je me suis approché de Strasbourg avec respect. Rien ne me préparait, je ne suis pas germaniste, même si j'avais déjà fait la place 5 ou 6 fois au théâtre allemand, dans le répertoire. Je me suis approché de Strasbourg avec une certaine perplexité, de Strasbourg la région, de Strasbourg la langue, de Strasbourg l'imaginaire, mais avec la plus grande déférence pour ce que je savais être un des outils essentiels du théâtre public français, le TNS, aussi bien par son répertoire, aussi bien par la cohérence de ses démarches et par l'extraordinaire ajustement au moment historique traversé que par l'école.
Nous allons découvrir avec vous, Pia Young, à la fois Strasbourg, une ville étonnante, théâtrale, et au fond, la scénographie de Vincent. Il a déplacé le théâtre, il a quitté le TNS, et il a joué un certain nombre de pièces dans des lieux assez chargé de Strasbourg.
Oui, nous sommes en face de l'ancien hôtel de ville de la ville de Strasbourg, qui est un superbe bâtiment du XVIIIe siècle, dans le vieux Strasbourg, non loin de la cathédrale, non loin de la rue des Juifs. Ce lieu avait été, a été utilisé pour faire de... pour un spectacle assez inoubliable. Comment c'est, Kafka n'a pas écrit de théâtre. Et c'était le théâtre de Kafka. Donc, c'est, ce lieu est construit comme une sorte de... presque semi-circulaire, on pourrait quasiment dire ça. Et on entrait par la porte, on était accueillis par une musique somptueuse. C'était un hôtel, avec tapis rouge. On était accueillis avec des hôtes qui venaient vous chercher par petits groupes, une groupe de 10. On pénétrait jusqu'à la porte centrale que vous voyez là-bas. Et on devait attendre pour avoir ses chambres. Et on montait. On n'avait pas le droit de communiquer avec celui d'à côté. On était un par chambre. Et à un moment donné, il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose. Quelqu'un entrait dans votre chambre. Et on était à la limite du danger. Et on se disait, enfin je me disais, heureusement il y a la fenêtre. Et moi je n'étais qu'au premier étage. Si c'est trop insupportable.
Vous étiez nombreux?
Oui.
C'est-à-dire 100 spectateurs?
À peu près, oui. Oui.
Donc 100 chambres?
Oui. Je n'ai plus souvenir de combien nous étions. Mais je sais aussi qu'il se passait quelque chose dans la cour.
Alors, Kafka venait vous voir, en somme, pousser la porte.
Les comédiens entraient et avec des textes de Kafka, vous terrorisaient de toutes sortes de façons.
Et la mise en scène? De qui?
C'était encore Engel, je crois bien. Il me semble. Ce diable d'homme. Alors, la sortie, c'était quelque chose aussi. Une fois qu'on avait donc passé un certain nombre d'épreuves, on était sortis quasiment de façon policière par les gens qui apparemment nous gardaient, et on entreprenait une sorte de voyage initiatique au centre de la Terre, c'est-à-dire au centre, on sortait par les caves. Et je ne sais pas si je me souviens mal, ou je ne sais pas si mon imagination extrapole, mais il me semble que nos guides avaient des chiens. Et nous sortions dans la rue, sans très bien savoir où on était. Brusquement, le contexte nous était devenu totalement étranger, on ne savait plus vraiment où on était. Enfin, moi, je savais que j'étais à Strasbourg, mais j'étais complètement désorientée. Ça aussi, c'est un souvenir.
Résumer ces 9 années de travail au niveau de la mise en scène et des auteurs, des pièces, pour l'auditeur qui ne se souviendrait pas de cette période.
Nous avons commencé par un spectacle fracassant qui s'appelait Germinal, d'après Émile Zola, où il n'y avait pas une ligne de Zola, qui était un spectacle sur l'impossibilité de représenter la classe ouvrière au théâtre, et peut-être même un spectacle sur l'impossibilité du théâtre. C'était notre spectacle d'ouverture. On avait fait à ce moment-là un gros bond dans les abonnements, et Germinal a vidé les salles. Et ceux qui sont restés dans les salles de Germinal ont été le noyau de la suite. C'est-à-dire que 9 ans plus tard, on a fait le Palais de Justice, qui était un spectacle radical, lui aussi, et les salles étaient pleines. Mais on a commencé par mettre le public strasbourgeois en crise.
Pourquoi était-il radical?
Si vous voulez, nous posions la question du renouvellement violent des formes théâtrales. Nous constations par exemple que depuis 25 siècles, le théâtre était fondé sur le dialogue. Et une partie de l'équipe, en tout cas, a travaillé sur l'idée que de fonder la théâtralité sur autre chose que le dialogue, c'est-à-dire le monologue ou le silence. En tout cas, nous cherchions tous à faire passer le théâtre à sa limite. Engel plutôt du côté du voyage. Nous, je veux dire, Bernard Chartreux, Dominique Muller, Sylvie Muller et moi, plutôt du côté du monologue. Michel Deutsch et Philippe Lacoulabart, plutôt vers l'absolu tragique et son impossibilité, etc., etc. Et donc, on faisait des spectacles où la forme d'attention du spectateur devait changer, absolument changer, et où nous fournissions plus de questions que de réponses. Alors qu'au fond, au TNS ou ailleurs, les années 80 ont plus été des années de réponses ou de réconciliation avec le public que des années de questions.
Pierre Lefebvre, quel était le public des années 50, le vôtre ?
Alors ben, le public des années 50, il était pratiquement inexistant. Il s'est regroupé petit à petit grâce à la qualité des spectacles, je pense, et puis l'espèce d'éclectisme dans le choix. Les gens venaient de plus en plus et les abonnements ont gonflé d'un seul coup à partir du moment où les spectacles étaient bons. Mais ça a été un public extrêmement varié, et beaucoup de jeunes, beaucoup des abonnés plus âgés. Tout ça a changé énormément. Là, quand Jean-Pierre Vincent parle de vider les salles, je me souviens d'avoir moi-même eu très envie de quitter la salle, soumis à une espèce de terrorisme intellectuel, de dire « vous ne savez pas ce que vous regardez, vous ne savez pas ce que vous devez sentir ». C'est un petit peu gênant.
Il y a d'une part un public des années 50, et aussi il y a aussi les exercices de pédagogie des années 50.
Vous voulez dire sur le plan de l'école ? Oui, ben avec l'école, il s'agit de libérer l'imagination des élèves, tout en leur procurant des disciplines de développement du corps, gymnastique, voix, quelles sont les données de l'entraînement de l'acteur. Et puis au-delà de ça, de se frotter pendant 3 années à tout ce qui peut être dans le répertoire, dans le bon sens du mot, de ne pas éviter d'être drôle quand c'est de la comédie, et de ne pas éviter d'être sérieux et émouvant quand il s'agit d'un propos tragique. À mon avis, c'est ça qu'il s'agit de faire avec des élèves, c'est de leur procurer des expériences nombreuses et différentes, pour qu'ils se découvrent eux-mêmes petit à petit, là où ils se sentent le plus fort, et qu'ils déterminent ainsi un début de goût de faire une carrière dans un domaine ou dans un autre. De ne pas imposer une vue de ce que doit être le théâtre de demain, mais de leur laisser le choix de faire ce choix, eux, quand ils auront un peu formé leur corps et appris à jouer, appris à avoir une discipline de groupe, de troupe. C'était ça vraiment le démarrage de l'école, d'arriver à faire des groupes qui soient cohérents, qui soient comme des troupes de théâtre.
On disait il n'y a pas si longtemps, on entre au TNS et à l'école comme on entre en religion.
Oui, c'est un peu vrai, parce que le curriculum était très très dense, et parce que nous avions, Jingou, moi-même, eu une carrière d'acteur d'être dans des tournées, ou d'être à l'heure, d'être prêt à jouer quand le rideau se lève, etc. Tout ça était des choses de base extrêmement importantes, je crois, dans le climat de l'école.
Vous avez une idée, vous, de votre public, Jean-Marie Villigier ?
De ce qu'il est ou de ce qu'il sera ?
De ce qu'il sera.
Eh bien, j'espère qu'il sera jeune, qu'il sera abondant, plus abondant qu'il n'est en ce moment. Et j'aimerais que nous arrivions à avoir, spécialement en direction des étudiants, un visage attrayant, ce qui suppose que nous soyons extrêmement ouverts et sur la ville et sur les différents secteurs de la ville. Je crois qu'il y a en ce moment, je le constate, un gros travail à faire de, je dirais, réouverture du TNS à la ville de Strasbourg, et au-delà de la ville de Strasbourg, à tous les publics. Car enfin, puisque vous m'avez fait entendre tant de voix chères, Je dirais ce que m'évoque la voix du Bergignou. Elle m'évoque des spectacles que j'ai vus à Nancy, puisqu'à l'époque, c'était les années, le milieu des années 60, le TNS faisait de larges tournées et présentait régulièrement, 3-4 fois par an, ses créations à Nancy, par exemple, mais aussi dans des villes plus petites. Ce qui me frappe le plus, peut-être, dans le travail accompli par Hubert Gignoux au cours de sa longue et belle direction ici, c'est l'énormité du courage, de la vigueur, de l'amour du théâtre qui s'y exprimait. Le boulot abattu, le colossal boulot alors, abattu.
Justement, je vous propose de réentendre Hubert Gignoux.
C'est sur le plan des modes d'exploitation qu'il y a le plus de différence, je crois. Et encore là, je voudrais bien que vous compreniez que je ne fais pas une critique de mes successeurs. À situation différente, comportement différent. J'ai connu une certaine époque, qui est ce qu'on appelle la première décentralisation. Ils en ont connu une autre, ils ne pouvaient pas réagir comme j'ai réagi. Ils ont fait autre chose et c'est très bien ainsi, je ne les juge pas. Ce qui change un peu, ce qui change pas mal de choses, c'est que Paris a pris pour eux plus d'importance qu'il n'en avait pour moi. Moi, ça m'était à peu près égal. J'allais à Paris comme ça, en fin de saison, toujours à un mauvais moment, en juin, quand j'avais fini mon travail dans la région. Et puis, on allait à Paris, et puis on était bien ou mal accueillis. Et n'importe comment, mes audaciens me disaient, vous savez, on est assez grand pour juger nous-mêmes, on n'a pas besoin du jugement de Paris. Actuellement, peut-être, est-ce bien, est-ce un mal, Paris reste le critère essentiel. Il n'y a pas de spectacle important dans la situation qui ne soit présenté à Paris et à un bon moment de la saison.
Mais Paris veut dire quoi? Ça veut dire la société théâtrale, le ministère
Ça veut dire tout ça. Ça veut dire tout ça. Car le ministère est très influencé par la critique, par les mouvements parisiens de public, etc. Bon. Alors, ce qui fait que l'exploitation chez mes successeurs, l'exploitation à Paris est devenue comme une espèce de norme, alors que pour moi, elle était une exception. Mais encore une fois, je ne juge pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Le deuxième changement, c'est qu'ils ne vont plus, en dehors de Strasbourg et de Paris, ou de grandes tournées dans les grandes villes de France ou à l'étranger, ils ne vont plus, comme on m'avait demandé de le faire, je l'ai fait, jouer à Metz, à Nancy, à Dijon, et même dans de toutes petites villes d'Alsace, comme Wissembourg, ou comme Haguenau, ou choses comme ça. Ce sont des centres dramatiques ou des théâtres nationaux qui sont installés dans une métropole régionale, qui vont jouer dans d'autres métropoles régionales ou à Paris, mais qui ne couvrent plus une région. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je n'en sais rien. Je regrette un peu tout de même que les villes importantes ou moins importantes autour de Strasbourg ne soient plus irriguées. C'est dommage, je crois qu'il y avait la vie d'une région qui était en cause.
Assez rapidement, j'ai découvert, mais ça c'est un autre chapitre, que la gestion de l'entreprise n'était peut-être pas tout à fait celle d'un théâtre d'aujourd'hui, qu'elle se souvenait peut-être trop d'un, comment dirais-je, d'un pragmatisme et d'engagements purement verbaux d'il y a 20 ans, l'époque des granges, des ciels étoilés, des Shakespeare montés en 3 jours dans le foin. Non, l'entreprise théâtrale moderne est une entreprise qui doit faire sa place à la comptabilité informatique, au budget prévisionnel et à bien d'autres choses. Ça m'a pris, au fond, 3-4 ans d'abord. Mais, oui, ne plus faire que le TNS soit un lieu hautement spécialisé en littérature et en philosophie allemande, ne plus faire que le TNS soit un lieu dûment répertorié comme un théâtre expérimental, mais qu'il fasse sa part vraiment le plus largement possible à tous les courants, à mes yeux, significatifs et exigeants du théâtre français, et à un répertoire très très ouvert, qui n'exclut ni la Méditerranée, ni le cas échéant, les Amériques, enfin l'espace anglo-saxon, ni non plus le tiers-monde, enfin un théâtre plus, un répertoire plus largement déployé.
Avec le temps, avec le recul, comment est-ce que vous voyez ces 20 dernières années du TNS avec Hubert Gignoux, avec vous-même, Jean-Pierre Vincent, avec Jacques Lassalle, et aujourd'hui avec Jean-Marie Villégier? Est-ce que vous voyez une cohérence, ou bien est-ce que vous voyez des articulations assez solitaires?
Je crois que, en fait, chacun a son originalité personnelle, mais c'est surtout que le monde change autour du théâtre. Il y a, à mon avis, une réelle continuité, parce que c'est moi qui ai voulu que Jacques Lassalle me succède. Il était en fait très lié à Hubert Gignoux aussi. Jean-Marie Villégier, c'est moi qui ai commencé à le faire travailler à l'école du TNS. Il y a une véritable cohérence, je crois, de sérieux. C'est un théâtre qui s'est toujours illustré par des prises de position extrêmement solides et fondées. Je pense que l'Alsace et Strasbourg aident et force même beaucoup à ce sérieux, quelles que soient les tendances et les questions du moment. Je crois que Jacques Lassalle n'avait pas à résoudre les mêmes questions historiques que nous avions à résoudre en 75, et lui-même en 75, quand il était à Vitry, a abordé les mêmes questions que nous à sa manière. Donc, je suis surtout sensible à la modification des époques, pas tellement à celle des hommes. Je crois qu'on a fait un travail qui a une certaine continuité, oui.
Pierre Lefebvre, quels sont les rapports entre l'école et le TNS, le théâtre ?
Ah ben ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander, parce que je n'y suis plus. je viens enseigner parfois comme intervenant, et mon souvenir des rapports de l'école, des élèves de l'école, avec la troupe, a beaucoup changé à partir du moment où il n'y a plus eu de troupe permanente. Parce qu'ils se sont trouvés face à des spectacles qu'on monte, avec des gens qu'on amène de Paris, ou un personnel qui change constamment. Et il n'y a pas eu, au cours de leurs 3 années de présence dans la maison, l'observation, si vous voulez, de la vie d'une troupe, de la vie d'un groupe de théâtre qui monte des pièces. Et finalement, c'est ça le théâtre, plus que n'importe quoi. C'est tout de même les comédiens qui font le travail, qui font le boulot, apprendre ça, c'est un élément extrêmement important dans la formation d'un jeune comédien.
Alors Philippe Lacoulabart, tout à l'heure, dénonçait une chose qui vous intriguait beaucoup, Jean-Marie Villégier. Est-ce que le travail théâtral peut se faire impunément partout ?
Je me rends compte d'ailleurs qu'une partie de la réponse que je voulais apporter a été fournie par Jean-Pierre Vincent. C'est que il n'est pas vrai qu'un projet tel que le leur, tel que le mien, puisse se formuler à l'égal pour telle ou telle métropole régionale. Il y a en effet une continuité que Jean-Pierre a très bien définie et qui impose un certain nombre de principes que je respecte avec plaisir lorsque je formule le projet qui est le mien. Ce projet ne pourrait pas être tel qu'il est s'il n'était proposé à Strasbourg. Mais par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, Strasbourg, c'est essentiellement une ville qui entretient avec ce théâtre un rapport d'amour, qui a su adopter le TNS comme le TNS l'a adopté, et que ce rapport d'amour ne suppose pas que le directeur du TNS se consacre prioritairement à la psychanalyse de l'Alsace ou à l'auscultation des goûts locaux, ni même que le directeur du TNS accorde la priorité absolue à la culture du bassin rhénan. Je ne suis pas strasbourgeois, on le sait. J'aime Strasbourg. Strasbourg ne me laisse nullement perplexe. Je reprends ici un mot de Jacques Lassalle. Non, je ne suis pas perplexe. J'aime beaucoup cette ville. J'y ai toujours été admirablement accueilli. J'y ai toujours trouvé des gens extraordinairement chaleureux. Et ce que je pense, c'est que ici, pour moi, ce dont il s'agit, c'est beaucoup plus que d'une métropole régionale, c'est d'une métropole européenne. Après tout, cette ambition est constamment affirmée ici et par tous. C'est de ce côté-là que je compte travailler.
C'était le Pays d'ici en direct de la salle de musique de l'école du TNS. Aujourd'hui, histoire du TNS. Prise de son et mixage, Marcel Lebras. Collaboration technique, Daniel Lepêtre. Réalisation, François Test.
Des perturbations dues à des petits problèmes de liaison technique sont intervenues durant l'émission du Pays d'ici en direct de Strasbourg. Veuillez nous en excuser.
Le Pays d'ici, théâtre à Strasbourg, deuxième des quatre émissions, Histoire du TNS, diffusée le 29 mai 1991 sur France Culture. À suivre.